RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, avec nos trois GG aujourd'hui. Bruno Poncet, le cheminot de Vierzon. Nous sommes avec Antoine Dier, ce consultant juridique de Dunkerque. Fatima Hidmounois, la professeure de français de région parisienne. C'est la deuxième heure des GG. Vous avez raté la première. Vous avez les podcasts à votre disposition. C'est sur l'appli RMC ou notre site internet rmc.fr. Vous avez l'émission et plus que l'on peut se raconter pendant la pub. Et là, il y avait une petite discussion sur les bons endroits de rencontre pour draguer. Je veux dire, ça vaut son pesant. De quoi va-t-on parler dans la deuxième heure des GG de Raphaël Glucksmann? Il se donne 3 mois pour rassembler sa famille politique. Avant de se présenter à l'élection présidentielle, est-ce qu'il peut réussir son pari? Les abus dans le périscolaire, une animatrice qui déclare avoir été réduite au silence. Elle voulait parler, on lui a dit non, faut pas faire d'ombre à la ville de Paris, pas de scandale. Et puis, on va maintenant évoquer cette tragédie, ce drame du côté de la Vilaine. À Rennes, un enfant de 11 ans étranglé pour une histoire de leurre de pêche. Cette histoire est terrible. Ça s'est passé dimanche après-midi sur les berges de la Vilaine où un petit groupe de trois gamins étaient partis pêcher. 15 ans, 16 ans. Celui qui est mort, il avait 11 ans.
Oui, Théo, c'est son nom, a été retrouvé mort près de la Vilaine. Donc après être parti, comme tu l'as dit, pêcher avec deux adolescents un peu plus âgés, un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans. L'autopsie a conclu à une strangulation, une serviette était serrée autour de son cou. Finalement, ce sont les deux adolescents qui ont été placés en garde à vue, présentés à la justice. On a retrouvé chez eux les affaires de Théo. Ils auraient expliqué, selon le procureur de Rennes, avoir voulu se venger et récupérer du matériel de pêche, des appâts, des leurres et des accessoires qui valaient quelques dizaines d'euros. Ils accusent l'enfant Théo d'avoir pris ce matériel. Les trois jeunes d'ailleurs avaient pêché ensemble la veille, ils s'étaient redonné rendez-vous le lendemain. Alors c'est vrai qu'on est interloqué, alors ça provoque beaucoup d'émotions parce que ce sont des ados entre eux, on est interloqué par le motif, par aussi le mobile, et puis le procédé, enfin la strangulation. Tuer quelqu'un en l'étranglant, ça prend du temps. Donc est-ce qu'il y a eu préméditation, beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une violence chez nos jeunes qu'on n'arrive pas à canaliser et qui nous explose la figure?
Fatima Hidbounois, et vous réagissez au 32-16 avec nous.
Tout d'abord, je pense aux parents de ce pauvre petit Théo, parce que déjà perdre quelqu'un, c'est difficile. Mais moi, j'ai enterré ma mère là. Je viens de l'enterrer, j'ai enterré mercredi. C'est déjà dur de perdre sa mère, mais vraiment, ma peine n'est rien comparée quand je pense à ces parents qui, eux, perdent leur enfant. Et donc, il y a quelque chose en plus de complètement illogique dans l'ordre des choses, d'une part ça, et le motif. En plus, on leur dit que leur enfant est mort pour un...
Et picadille.
Pour rien, finalement. Donc, il y a une violence dans ça. Après, malheureusement, ça ne m'étonne pas, dans le sens où on retrouve un système. Ce n'est pas un fait divers pour moi. C'est un fait de société.
Pourquoi ?
Puisque là, on dit, il est mort pour ça. Non, il n'est pas mort pour ça. Ce n'est qu'un prétexte pour déclencher une violence qui est déjà là. Quelqu'un qui est normalement constitué, en tout cas un enfant, voilà, qui est capable de gérer la frustration, a un conflit avec un autre enfant. Dans le pire des cas, ils vont se disputer. Pire des cas, ils vont se battre. Il va lui mettre une claque. Voilà, ça s'arrête là. Et ça s'appelle un conflit d'enfant. Si pour une frustration, tu tues l'autre avec un coup de couteau, avec pire encore une serviette en maintenant, donc il y a une durée aussi dans cette violence-là, je suis désolée.
Il y a aussi un problème d'empathie quand même.
Il y a un problème d'empathie, il y a un problème de relation à la frustration, donc une incapacité à gérer sa frustration qui dépasse tout, et puis il y a un problème de violence latente qui a trouvé comme prétexte ce motif-là. mais il l'a pas tué à cause de ça. C'est exactement comme un homme violent qui va tuer sa femme, le repas était trop chaud. Non, pas du tout. C'est ni trop chaud ni trop froid, tu es violent. Tu es violent et tu as trouvé un prétexte à ta violence. Donc il y a ça aussi. Et de la même manière, vous avez vu quand on parle de la violence chez les jeunes, très souvent on dit ah oui c'est le foot, ah c'est à cause du foot, le rugby, ah ben c'est peut-être le rugby. Non, là vous voyez bien la pêche n'est pas une activité. La pêche, on dit même la pêche pour se relaxer. Donc j'espère que maintenant vous allez me suivre et m'entendre, les gens qui me disent ah t'exagères, quand je dis que c'est pas un fait divers de plus, mais un problème de société profond, notamment de la très grande violence chez les mineurs.
Antoine, moi ce qui me dégoûte également, c'est l'écart d'âge, tu as 15-16 ans contre un petit de 11 ans. C'est-à-dire que même à 15-16 ans, même dans cette société violente, tu te dis ben non, c'est un petit, il a 11 ans. C'est pas une histoire entre enfants ou jeunes adultes du même âge ou adolescents du même âge, il y a deux adolescents et un enfant. À 11 ans, je pense qu'on est encore un enfant. Ça pose tellement de questions, notamment sur l'environnement et l'éducation pour les enfants. C'est-à-dire que à 15-16 ans, réussir à étrangler un enfant de 11 ans, j'aimerais connaître l'environnement, j'aimerais connaître l'éducation, ce qu'ils ont regardé à la télé, ce qu'ils ont vu. Et puis, à 11 ans, être seul dehors également, je sais pas si j'étais parent, si je laisserais mon enfant de 11 ans aller seul à la pêche dehors. Et donc, toute la question, c'est
les parents qui déjà, ton enfant il va à la pêche.
Je culpabilise personne.
Non mais voilà, il a 11 ans. Il y a plein de parents qui laissent leur enfant de 11 ans aller à la pêche. Il fait pas nuit. Il est pas 22h la nuit.
Il faudrait savoir quand même si
ils se connaissaient en plus apparemment.
Ils se connaissaient
parce qu'ils avaient déjà pêché.
Et même les parents du dire, il est avec des gens plus grands.
Non, ils se sont rencontrés la veille.
Alors,
ouais, bah oui. Il faudrait voir quand même quels sont les deux jeunes.
Mais on va pas culpabiliser la victime et les parents, les pauvres.
Ça peut être une mauvaise rencontre.
Si c'était des amis qui se connaissaient depuis longtemps, bien sûr, ils sont partis. Le plus jeune est parti avec les deux plus âgés. S'ils se sont rencontrés la veille, paradoxalement, il faut dire aux enfants non, on rencontre quelqu'un, comment dans la
après,
rue.
Après, le responsable, ça reste ceux qui ont étranglé. Je suis désolée. Parce que c'est un peu comme une fille se fait agresser, on va dire mais t'es habillée comment et t'étais où. Le problème, c'est d'étrangler. Quand on voit ton enfant à la pêche, tu penses pas qu'il va mourir étranglé. Je suis désolée. Là, je pense aux pauvres parents, s'ils entendent notre émission. Non, c'est déjà, franchement, moi je perds mon fils comme ça. Déjà, garder ta santé mental, ne pas vriller, c'est déjà dur. Donc les pauvres, au moins qu'on leur rajoute pas ça.
Non, rassure-toi, j'ai accompagné des parents qui ont perdu une enfant quand j'étais directeur des cabinets à Calais. Je vois tout à fait la peine. En revanche, ça n'interdit pas de poser la question de comment dans notre société cela peut se produire, pourquoi, voilà.
Voilà, comment ils peuvent étrangler sur tous les autres là.
Bruno.
Moi, je suis comme Fatima, je pense à la famille des... la famille du petit qui vient de décéder. Puis je pense aussi à la famille des deux enfants qu'on tué, et je me dis que les parents se demandent comment ils ont pu élever un sociopathe ou un psychopathe, tu vois, parce qu'en fait, étrangler quelqu'un, se barrer, rentrer chez toi et faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire que non seulement t'as pas d'empathie, mais à quel moment, tu vois, tu ne comprends pas que tu viens de faire quelque chose de grave et que... Alors la gamine, elle a été dénoncée, ok, parce qu'elle a dû sentir le vent de la chaleur arriver sur elle, parce que vraiment l'autre avait dû être gaulé, mais je comprends pas, enfin tu vois, et donc je pense que les parents, oui effectivement, il faut se poser plein de questions sur notre jeunesse, parce qu'aujourd'hui on a une jeunesse qui se permet de poignarder des fois des profs, qui se permet de se battre, de se poignarder entre elles, qui se permet aussi de tuer un gamin de 11 ans pour de la pêche, et on voit plein de violences partout, et notre société elle est gravement touchée. Alors tout le monde t'explique qu'il y a aussi le post-Covid qui fait que plein de gamins ont été psychologiquement touchés, ce qui est certainement vrai. Mais à un moment donné, je pense que les parents doivent se poser plein de questions. Et en fait, aujourd'hui, les réponses, nous, on les a pas, parce qu'effectivement, nous, dans l'émission, on nous demande de réagir sur des faits divers et on les accumule tous les ans. En fait, tous les ans, je te dis pas que c'est pas tous les jours, mais pas loin, en fait, où tu viens d'ouvrir un journal et tu vas te rendre compte qu'un gamin de 11 ans est mort d'un coup de calage parce qu'il était pas au bon endroit. Et en fait, cette violence-là dans notre société, il n'y a pas d'explication logique, il n'y a pas d'explication rationnelle. On peut penser au Covid, on peut penser à plein de choses, mais il y a une vraie explication, c'est qu'à un moment donné, nos enfants ne sont plus protégés dans la société actuelle. Quoi qu'ils fassent. Et ça, c'est une vraie interrogation qu'on doit avoir. Et on ne doit pas garder nos enfants chez nous en disant tu ne peux pas sortir, ce qui peut t'arriver n'importe quoi. Mais malheureusement, tu ne peux pas laisser partir ton gamin à 11 ans en disant merde, je l'envoie où ? Et donc, en fait, aujourd'hui, tu es dans une espèce de moment où il faut qu'on réfléchisse à notre société. Et je ne vois pas aujourd'hui, moi, quand j'entends Attal t'expliquer que oui, l'éducation nationale, ça va être sa priorité dans son futur programme.
Ils ont déjà dit.
Bon, et ça fait 9 ans qu'il est là avec les autres.
Ça.
Ils n'ont rien fait. Et ceux d'avant n'ont rien fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'occupe de nos enfants comme il faut qu'on s'occupe de nos anciens. Nos anciens aujourd'hui meurent dans des EHPAD, on les laisse mourir dans des conditions infernales et pour des 2-3 000 euros par mois. Moi, je suis désolé, mais ça, c'est des questionnements qu'on doit avoir et on doit aussi questionner sur nos enfants. Sauf qu'aujourd'hui, bah, comme tout à l'heure l'a dit Olivier très justement, les vieux votent plus parce qu'ils ont plus peut-être tous leur tête, les jeunes votent pas. Donc en fait, bah, ça intéresse personne. Et puis ce qui intéresse les gens, et on va parler avec Gusman, c'est les CSP+, parce qu'eux, en fait, ils votent et machin, tu vois. Et donc aujourd'hui, moi, je pense qu'on est dans un moment où notre société, il faut qu'on s'interroge dessus parce que notre société va mal pour plein de raisons, et la principale raison aussi, c'est l'abandon de nos enfants.
Et à 15-16 ans, comment tu as grandi pour avoir envie de tuer ? Est-ce que tu as grandi avec la violence des jeux vidéo ? Est-ce que tu es dans un milieu qui est déjà violent ? Ce serait intéressant de savoir précisément d'où viennent ces gamins de 15 ans.
Tu sais qu'il y a fait une étude sur les jeux vidéo qui t'expliquait qu'en fait les jeux vidéo violents ne rendaient pas les gens violents.
Non, non.
Il y a des générations entières qui ont joué à des jeux vidéo. Heureusement, il n'y a pas de génération entière psychopathe.
On parle toujours du jeu vidéo et on ne parle jamais des clips de rap. Pardon, mais moi je pense que le clip de rap dans lequel sont baignés toute une partie de la jeunesse avec des trucs hyper violents,
c'est c'est parce qu'il y a des générations entières qui ont grandi avec des jeux vidéo violents qu'au milieu, tu en as pas quelques-uns qui peuvent y être sensibles. Je dis simplement ces gamins de 15-16 ans, quelle violence ils avaient en eux pour pouvoir, à un moment, aller jusqu'à étrangler et ne pas s'arrêter et ne pas se rendre compte de ce qu'ils sont
et
en train de faire.
Et rentrer chez toi comme si de rien n'était.
Et ensuite rentrer chez eux. Voilà.
Quel interlocuteur tu as aussi. Parce qu'entre un enfant qui joue à des jeux vidéo et qui a pas d'adulte, qui a rien, qui a ses images brutes, qui a commencé, et un enfant qui joue, et même le jeu, c'est une forme de sublimation, on va dire, où il déverse une forme de violence symbolique dans le jeu et il va très bien en dehors du jeu parce qu'il a été accompagné, il joue à certaines heures, il est pas seul avec son écran.
Toi-même parce qu'il a été accompagné.
Voilà. C'est vraiment
que c'est pas le jeu, c'est l'encadrement.
C'est pas le jeu en lui-même. Vous voyez, c'est comme c'est pas le couteau avec une couteau. Moi je coupe une pomme, je vais pas planter quelqu'un, vous voyez. C'est exactement la même chose. Il y a les outils, qu'est-ce qu'on fait de l'outil, comment on est accompagné, l'environnement autour, le discours autour. Et nous on a de plus en plus de lieux où les enfants sont seuls.
Comment ils ont grandi, dans quelles conditions ?
Les enfants sont seuls. On a fait d'internet un endroit où il y a des moments où les enfants sont complètement seuls entre eux dans un monde parallèle qui échappe aux parents. Effectivement,
des
ça,
adultes vont
faudrait
chasser.
Regarder. Et oui, des pédocriminels vont chasser. Pas les adultes, vois, des pédocriminels vont repérer ces lieux-là d'ailleurs.
Je pense qu'il faut quand même regarder l'enquête, savoir précisément dans quel contexte ils ont grandi, les parents. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est le manque d'empathie. C'est encore une fois, ils ont étranglé à main nue ou avec un foulard un gosse. Alors, au début, on pensait que c'était un jeu du foulard qui avait mal tourné, parce que ça arrive aussi. Ouais. Visiblement, non, là. C'est ça plutôt un assassinat ou un meurtre par vengeance.
Mais à 15,
là, je vois pas les jeux vidéo, c'est pas ça. Je pense que c'est.
Non, mais
c'est
Olivier, plus une construction
mentale et un encadrement parental.
Le scénario du foulard, du drap mouillé, et tu serres, tu l'inventes pas toi-même. Donc tu le vois quelque part. C'est comme aujourd'hui les coups de pied dans la tête systématiquement quand il y a quelqu'un qui est au sol. Ça vient des jeux vidéo. Je ne dis pas que tous les gamins sont influencés par ça et ils passent au coup de pied dans la tête. Mais ça vient quand même des jeux vidéo où quand le type est au sol, boum, tu le fracasses dans la tête. Là, le gamin de 15-16 ans, le fait de nouer la serviette et de serrer et de serrer et de serrer, il l'a pas inventé 10 minutes avant. Il l'a vu quelque part.
Je suis d'accord avec l'accès, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais donner un exemple.
C'est pour ça que je pose la question de l'environnement et dans quoi le baigner.
C'est ça. Il y a 2 ans, on a eu un moment où c'était la mode d'étrangler, d'arriver derrière et d'étrangler jusqu'à l'évanouissement. Et ils avaient tous vu ça sur Internet avec des techniques d'étranglement de MMA. Donc voilà. Sauf qu'il y avait des enfants qui reproduisaient et d'autres qui allaient voir leurs parents pour dire ouais, j'ai vu ça, c'est fou, ou qu'il y avait un interlocuteur ou non, et qui savait très bien qu'il fallait pas le reproduire. Donc la question, c'est pas simplement ce que tu vois, mais est-ce que tu le reproduis ou pas? Tu peux très bien avoir accès à des scènes violentes.
Mais bien sûr.
Et t'es dans un environnement normal, tu vas pas le reproduire.
Non, non. Donc c'est, voilà. Je te dis, mais c'est comme il y a certains chez qui ces scènes violentes, elles trouvent un écho. Elles trouvent un écho par rapport à ce qu'il est, par rapport à son milieu.
Ouais, et puis, débat sur les jeux vidéo,
ils ont accès.
Mais
non, ils ont accès plus facilement. C'est comme pour le porno et ils ont accès à un enfant de 10 ans qui a accès à tout.
Aucune idée de la démontrer. Je dis simplement que notre société aujourd'hui fait que on a plus accès à des choses violentes. Après, quand t'es dans un milieu qui est canalisé, tant mieux. Ça t'empêche pas de basculer. Regarde, on a vu des
La violence aujourd'hui, elle est pas sur les jeux vidéo. La violence, elle est réelle. Elle est sur TikTok.
Elle y est aussi.
Où t'as des 10 images réelles.
Mais enlève jeux vidéo et mets TikTok si tu veux.
Non, mais TikTok, regardez celui qui est mort parce qu'on l'a oublié rapidement. Celui qui était frappé. Qui était frappé et que c'était un jeu et les gens disaient ah continue de le frapper qui avait un problème mental et qui est mort qui est mort en direct
T'étais
on vit dans ce monde là il y a eu des morts en direct on était dans des lives donc on vit dans cet environnement là aussi ça tue l'empathie
il est plus profond
bien sûr
je pense que c'est éducatif
moi je pense que c'est l'absence de sanctions surtout
l'empathie c'est transmis par les parents c'est pour ça que je dis encore une fois on peut toujours trouver des excuses les jeux vidéo les machins etc.
Parents,
c'est les parents qui apprennent l'empathie.
Tu voudrais pas qu'on fasse ça, alors le fais pas. Hein,
voilà, aux enfants, ce qu'on peut faire et ne pas faire.
Il n'y a pas que les parents, il y a l'environnement aussi.
Bien sûr,
c'est l'enfant. Les parents, aussi.
Pardon, mais on est quand même dans une société où il y a des parents qui désertent, où il y a des pères qui désertent. Le père a disparu. D'ailleurs, on nous a expliqué qu'on n'avait plus besoin de père, parce que maintenant tout se valait, la mère pouvait faire le père pouvait faire la mère, etc. Moi, je suis désolé, excusez-moi d'avoir un peu une conception un peu tradie des choses, mais je pense que quand il y a un garçon qu'il faut élever, c'est pas mal le père. Parce que le père, c'est aussi un modèle. Alors, pas tous, mais quand c'est bien fait, et ça donne quand même quelques bases. Et tout ça a volé en éclats. On est dans des familles monoparentales, on est une famille qui et on pense que tout ça se fait facilement. On pense que divorcer c'est pas un problème, que les enfants vont s'en remettre. Mais on s'aperçoit quand même qu'on a des générations. Heureusement que tous les enfants passent pas à l'acte, mais qui manquent d'empathie, qui ont des problèmes psychologiques.
Aujourd'hui, il y a aujourd'hui, les parents ils donnent un écran au gamin. Moi, tu vas n'importe quel gamin aujourd'hui. Enfin, déjà la nounou c'est une télé. Ça, les gens te le disent. Moi, je fous mon gamin devant la télé. Voilà. Donc, à un moment que tu mets devant la télé, que tu ne l'as pas lu, ça commence déjà mal. Et puis, n'importe quoi, le gamin, il n'est pas content. Tu files ton écran, tiens, joue avec les bulles et tout. Bah, ok, si tu veux. Mais à un moment donné, ton gamin, si tu ne lui parles plus et qu'après, tu te dis, c'est facile d'élever un enfant parce que j'ai une télé, un téléphone portable, je pense que ça va coincer. Et moi, je ne te dis pas que nos parents, ils étaient mieux parce que nos parents, ils avaient la main leste et on a peut-être pris des claques qu'on ne méritait pas forcément. Par contre, moi, je ne me serais pas amusé à tabasser quelqu'un pour le tuer. Ça, c'est sûr. Et puis, il y avait des endroits où je tapais pas parce qu'on
savait que ça faisait mal.
Ah oui. Et puis quand t'avais pris une branlée, tu rentrais pas chez toi.
T'avais pris une châtaigne, ça s'arrêtait. Quoi.
Il y en avait un qui a gagné, l'autre qui avait perdu, on passait au
tour. Ouais, et puis après, tu te faisais la bise, c'était fini, en règle générale.
Dans un instant, on va s'intéresser au périscolaire avec une animatrice qui déclare avoir été menacée. Il ne fallait pas qu'elle révèle les agressions, les affaires d'agression sexuelle dans le périscolaire parisien. On va regarder ça, puisque le procès est en cours, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Bruno Poncet, Antoine Dierce, Fatima Aïd Bounois, vous réagissez au 32-16. On va revenir, on va rouvrir avec vous, bien sûr, le dossier du périscolaire.
Vous pointez d'une façon obsessionnelle depuis 2013 la question du périscolaire.
C'est Anne Hidalgo qui s'exprime, l'ancienne maire de Paris. On a rajouté, insisté sur le obsessionnel. Ah oui, il y a de quoi être un peu obsédé par cette histoire du périscolaire parisien parce que c'est un véritable scandale. Et puis là, il y a un procès, celui d'un agent municipal qui s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris, accusé d'avoir agressé 9 enfants et 2 collègues. Et puis il y a une femme qui parle aussi, et c'est ça qui nous intéresse.
Oui, parce que l'ancien animateur dans cette école maternelle du 11e arrondissement est jugé. C'est le premier gros procès, effectivement, dans ce scandale. Il y en aura d'autres, malheureusement. Il est jugé pour avoir agressé sexuellement des enfants de 3 et 5 ans. D'ailleurs, des enfants ont été auditionnés. On apprend d'ailleurs que cet animateur vacataire, finalement, était un réalisateur de courts-métrages, plutôt raté, et qui, visiblement, avait choisi ce métier, cette fonction, pour être au plus près de ses victimes. Et au milieu du procès, qui a démarré hier, il y a eu la déclaration choc d'une animatrice qui a affirmé à la barre, je la cite, On m'a dit que si je disais des choses qui pouvaient porter atteinte à la ville de Paris, certaines sanctions pourraient être envisagées. Donc on a des propos qui émanent d'une personne qui travaille au service juridique de la ville et qui nous explique qu'on lui a demandé de se taire, de pas trop faire de bruit, d'étouffer finalement le scandale. C'est pour ça que là, ça devient très grave. C'est-à-dire que non seulement il y a effectivement des pédocriminels qui ont pu agir en toute impunité, mais en plus, il y a eu une volonté de couvrir ces affaires pendant des années, puisque ça a duré malheureusement beaucoup d'années.
Bah écoutez, moi je suis pas pour le pas de vague sur la pédocriminalité, moi je suis pour le tsunami total. Elle a dit vous êtes trop obsessionnel, et ben je vais être obsessionnel mais comme jamais j'ai été obsessionnel. On va en parler, on va en reparler, on va tweeter, on va buzzer, on va trouver les phrases les plus punchlines du monde pour dire que la pédocriminalité c'est fini. Que vraiment, Pédoland, c'est fini et qu'on l'appelle de nos voeux et que ça va commencer avec une chose, c'est que les gens qui parlent, non seulement on doit pas les faire taire, mais les gens qui parlent, on doit les valoriser, les protéger et les considérer comme des lanceurs d'alerte. Donc merci, vous qui avez vu parler, on est ensemble. Parler, on va changer, on change d'air. Donc on voit quelque chose, on parle. Ça s'appelle pas de la dénonciation, ça s'appelle de la protection.
Et ça s'appelle une volonté d'étouffer l'affaire. Ah non, mais complètement.
En plus, cet argument-là, ça va salir la ville de Paris. Mais ce qui salit la ville de Paris, c'est de laisser des pédocriminels tranquillement à toucher des enfants, parfois vraiment tout petits. Parce qu'on s'attaque à quoi ? On s'attaque. Vous voyez, c'est comme pour les viols où on dit c'est le désir. Non. C'est la prédation et surtout on s'attaque aux gens vulnérables, les petits qui ne peuvent pas parler, les personnes âgées qui ne peuvent pas parler, les personnes handicapées qui ne peuvent pas parler. Alors on va parler pour eux et on va dire que ce n'est pas parce qu'une personne est vulnérable qu'elle n'est pas puissante et sa puissance c'est nous. Donc effectivement on va être obsessionnel et on va dénoncer encore et encore sur ce plateau des grandes gueules. Si c'est pas dans les grandes gueules, ça sera partout. Voilà, moi ça me dégoûte littéralement de le savoir, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est ce qu'on dénonce depuis des années. On fait taire les gens qu'on devrait protéger. Donc merci madame, vous étiez une lanceur d'alerte.
Antoine, si je trouve qu'on entr'ouvre enfin la question de la responsabilité au-delà des criminels, des pédocriminels, la question de la responsabilité de toute la chaîne qui a pu couvrir les choses ou du moins fermer les yeux. Et donc, je suis même étonné que la justice ne se saisisse pas elle-même d'une manière ou d'une autre.
Bah, j'espère qu'après les propos de cette animatrice,
et qu'on aille chercher.
Des responsables politiques.
Voilà, des responsables politiques dans les cadres, dans les élus de la ville de Paris, tous ceux qui ont pu savoir, qui ont pu dire pas de vague, etc. Et je pense que ça participerait d'une forme de réhabilitation du politique.
Parce que ce « on m'a dit », moi j'aimerais savoir qui est derrière le « on m'a dit ».
A priori, c'est une personne, c'est ce que j'ai dit, du service juridique de la ville, puisque cette animatrice demandait une protection fonctionnelle, puisqu'elle-même était victime de cet animateur, et on lui a répondu « bah ça serait bien
de... » De facto, c'est une complicité de la mairie, alors.
C'est pour ça qu'on ne peut pas en rester là. On doit avoir une enquête, on doit aller chercher les responsables.
Une opération main propre.
Sinon, ça rejaillit sur tous les politiques. Sinon, on imagine aussi le grand complot de protection des pédophiles de partout. Et donc, il est urgent.
Ça alimente tout ça.
Oui, bah voilà. Donc, il est urgent d'aller chercher les véritables responsables et de les sanctionner.
Bruno.
Moi, ce que je vois, c'est que dans toutes ces affaires de pédophilie ou de
criminalité.
Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, le procédé est le même, c'est que c'est toujours tu. Betaram, c'était le cas. En fait, pendant des années, ça a été mis sous cloche et voire même c'était institutionnalisé dans l'église. Aujourd'hui, il est long que ce délit et il y a eu des procès, principalement en Irlande. En France, on n'en a toujours pas. Mais en fait, ça se délie. Et donc, aujourd'hui, tu le sais. Mais avant de le savoir, il a fallu que des gens cachent. Et pour cacher, je pense que c'est institutionnel. Et je pense que la mairie de Paris n'est pas exemple de tout reproche là-dessus. Et je pense, et on peut pas dire que Anne Hidalgo le savait, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que une fois que les gens se sont plaints en interne et que ça a été éteint, ça veut dire qu'il y a des strates là-dedans qui, où les gens ont dit, au-delà de, je pense, de dire, oui, pas de vague, c'est pas le pas de vague. C'est juste que, en fait, pour garder tes employés, pour garder ton système en place, il faut bien qu'à un moment donné, tu te taises. Et si tu te tais, tu vas tout faire effondrer.
Oui, mais tu vois.
Il faut surtout pas faire ça avant les élections ou avant quoi que ce soit.
Anne Hidalgo, c'est elle qui voulait à tout prix plus de mixité.
dans le périscolaire parce que trouvait qu'il y avait que des animatrices et pas assez d'animateurs. Bon, bah elle a fait rentrer le loup dans la bergerie. Ouais, parce que visiblement, non pas que tous les hommes qui deviennent éducateurs sont des pédocriminels en puissance, bien sûr, mais forcément, si derrière il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas des critères plus fermes d'embauche, ben forcément tu laisses rentrer des gens qui utilisent ces facilités. Et puis la deuxième chose, je suis désolé, mais tu parles de Bétaram. Mais Bétaram, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Mmh. On a mis en cause un premier ministre, François Bayrou, qui a été auditionné. La commission d'enquête parlementaire sur le périscolaire parisien, on l'attend toujours. Je sais que la sénatrice parisienne Agnès Evren l'a demandé. Alors je sais pas parce que comme Monsieur Lecornu, il fait rien, donc je sais pas s'il a. Enfin, je sais pas si à l'Assemblée il va se passer quelque chose. D'ailleurs, c'est pas Monsieur Lecornu, c'est plus directement l'Assemblée qui doit décider. Mais moi, ça me choquerait pas qu'une commission d'enquête parlementaire. Oui. Et pardon, excusez-moi de politiser un peu les choses, mais je me demande s'il y a pas une complaisance parce que c'est la gauche qui était au pouvoir à Paris et que peut-être c'était plus facile d'attaquer Bayrou, l'homme de droite catholique, que d'attaquer les progressistes de la mairie de Paris qui seraient par définition dessus de tout soupçon. Je suis même étonné qu'Emmanuel Grégoire puisse avoir été réélu alors qu'il était aux affaires et que toute l'équipe sortante a été réélue alors qu'elles étaient aux affaires et qu'on est peut-être face à un des plus grands scandales de pédocriminalité qu'a connu la France. Tout ça, moi, m'interpelle, mais bon.
Et la chose qui est importante, c'est que là, on est dans la deuxième étape. C'est-à-dire, pendant un moment, on parlait de libérer la parole. On libère la parole. Maintenant, il y a la deuxième étape, c'est comment cette parole est accueillie et qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il ne se passe rien, les gens vont se taire et vont dire attends, on parle, on se prend des coups pour rien finalement, pour revenir, il se passe absolument rien. Donc là, il va falloir qu'on ne se rate pas. Si on veut vraiment passer à autre chose, le message, il est fort. Parce qu'il y a des victimes. Des petites victimes qui écoutent et qui regardent, c'est toujours comme ça. Moi, je vois très bien les élèves, des fois, on étudie un texte, on parle d'un texte, on pose une question, ils écoutent ma réponse, et en fonction de ma réponse, ils vont venir se confier après. Vous voyez, très souvent, j'accueille Elina Dumont. Et Elina Dumont, elle parle de sa vie où il y a eu des abus sexuels. À tous les coups, le cours d'après, et je parle avec Elina, les élèves me regardent. Ils regardent ce que je dis, comment je reçois cette parole-là. Le cours d'après, quand il y a un enfant qui a eu des abus sexuels, il vient me voir et il m'en parle là. Mais il m'en parle là parce qu'il m'a observé en train d'accueillir la parole d'Elina. Vous voyez, donc c'est très important comme adulte, notre façon de réagir face à ces paroles qui se libèrent va déterminer la libération d'autres paroles. C'est pour ça que quand une personne parle, d'autres personnes parlent et que ça fait un effet boule de neige.
Souviens-toi quand Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris, était venue ici et qu'on avait parlé de ce scandale, elle avait évoqué les dysfonctionnements.
Ah bah oui.
Pour eux, c'était des dysfonctionnements.
C'est plus que des dysfonctionnements. On a
un problème aussi, culturel. En fait.
Attends, je voudrais qu'on écoute Guillaume qui est avec nous en Charente-Maritime. Bonjour Guillaume.
Bonjour à vous.
Bonjour. Comment vous réagissez à ces histoires qui n'en finissent pas d'ailleurs là?
Bah alors, en fait, moi j'ai été concerné directement, indirectement, il y a une dizaine d'années. Je travaillais en mairie dans une mairie du Sud-Ouest, hein, je vais pas la nommer, bien sûr. Il y a des collègues à moi de la cantine scolaire qui ont découvert un jeune du périscolaire qui faisait la cantine le midi avec une petite fille sur les genoux. Il pensait être tout seul. Alors je sais pas comment il a réussi à se retrouver tout seul avec cette petite fille. Et il a fait des attouchements à cette petite fille. Donc mes collègues ont voulu alerter la mairie, on leur a bien fait comprendre qu'il fallait absolument se taire.
Voilà le problème.
Pourquoi ?
Voilà, et voilà, parce que on a fini par savoir, donc quelques semaines après, que le fils, ce monsieur était le fils de la meilleure amie du maire.
Ah. Non, bah voilà. Non, enfin...
Ah bah tiens, pas de vague, pas de scandale.
Pas de scandale, et nous, travaillant en mairie, on était vachement exposés, on a les journalistes du coin sont venus nous voir, et on nous a bien fait comprendre qu'il ne fallait absolument rien dire aux journalistes.
Et c'est sorti l'histoire quand même ou pas ?
Elle est sortie, oui, elle est sortie dans deux, trois journaux, mais je ne sais pas comment ça s'est fini. Et moi, en fait, j'ai ce poids-là depuis, j'ai essayé de vous appeler, parce que vu qu'on en parle souvent... Maintenant, avec l'histoire du périscolaire à Paris, j'ai essayé de vous appeler souvent parce que j'avais ce poids sur mes épaules.
Sur la conscience, ouais.
Voilà, sur la conscience. Et en fait, c'est terrible, quoi. En fait, il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe. C'est vraiment, la France est gangrénée, j'ai l'impression.
Et puis, en plus, il ne devrait pas y avoir de conflit de loyauté pour ces choses-là. On va être clair. Quand c'est un pédocriminel, ce n'est pas ton père, ton frère, ton cousin, ton meilleur ami. C'est un pédocriminel. Et l'enfant, c'est ton enfant. Ça devient ton enfant. C'est l'enfant du voisin, c'est l'enfant de la voisine, c'est ton enfant. En vrai, c'est ça le vrai raisonnement. Il y a pas d'autre chose.
Mais en même temps, une fois qu'on a dit tout ça, avec je suis parfaitement d'accord. Il faut quand même prévoir des procédures de signalement parce qu'on peut pas balancer le nom de quelqu'un d'un collègue. Donc, il faut que la procédure soit formalisée, qu'elle soit entendue. Et Guillaume, si vous avez signalé à la hiérarchie et que la hiérarchie n'a ensuite rien fait, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Voilà.
La hiérarchie nous avait convoqué avec le directeur général des services, le maire, le premier, deuxième, troisième adjoint.
Ouais, c'était de l'intimidation.
Pour bien nous expliquer qu'il n'y avait rien d'avéré, que.
Ah ouais.
Et malheureusement, les deux collègues féminines qui avaient vu ça ont été réduits au silence. On leur a bien fait comprendre que voilà. Cette personne qui a fait les attouchements, on l'a recroisé dans le village puisqu'il était, il habitait à 500 mètres de la maison de l'enfance, donc de la cantine scolaire. Et on le recroisait quasiment tous les jours. Et après, je sais pas ce qu'il est devenu. Donc, il n'a pas été écarté tout de suite. Hein.
Merci Guillaume, ce témoignage.
Dernièrement, entre les histoires autour de dans le monde de la culture royale de violences sexuelles, dans les domaines dans tout ce qui est domaine de pédocriminalité, on se rend compte aujourd'hui. Quand tu entends des gens et la parole se libère, que peut-être une grande majorité des Français a été victime ou voire même témoin de ce genre de choses. Et en fait, tu te retrouves aujourd'hui dans une société qui commence à libérer sa parole, mais qui est très inquiétante. Ça veut dire que pendant des années, les enfants ont été abandonnés face à des adultes. Et peut-être l'adulte, ça peut être ton cousin, ça peut être ton père, ça peut être ton oncle. Mais en fait, on est abandonné face aux adultes. Et moi, j'entends de plus en plus de commentaires. Et on l'entend ici. On a des collègues grande gueule qui t'expliquent qu'ils ont été victimes de pédophilie dans leur enfance. C'est très courageux à Laura, à Belle et à d'autres de le dire. Et moi, chaque fois, je suis éberlué de voir. Et les chiffres montent. Et en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, je te dis pas qu'un jour tu vas autour de toi, mais autour de toi, peut-être que la moitié des gens autour de toi a été victime ou était témoin de ce genre de choses. Et moi, je me dis, mais ça fait combien d'années qu'on abandonne nos enfants dans des institutions, quelles qu'elles soient.
Attends, juste sur sa belle association, le Colosse au pied d'argile, qui intervient dans les écoles, comme garçons aussi, les garçons qui sont victimes d'abus. Lui, à chaque fois qu'il intervient dans une école, il y a toujours un enfant après qui parle. Au moins, c'est-à-dire un enfant par classe minimum. C'est beaucoup plus.
Merci de votre témoignage, Guillaume. Il est 11h25 à suivre dans les GG. La politique et Raphaël Glucksmann, place publique, se donne 3 mois pour décider s'il se présente à l'élection présidentielle. 3 mois, ce qu'il veut, c'est convaincre. Et il a son livre qui sort demain. Nous avons encore envie. C'est le titre du livre de Raphaël Glucksmann. Il est 11h20. Pourquoi tu ris alors que j'énonce tout ça, Fatima?
Nous avons encore envie.
Allez, à tout de suite au 32-16. Est-ce qu'il va réussir à convaincre Glucksmann? Est-ce qu'il va réussir à s'imposer? On vous attend.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG avec vous en direct jusqu'à midi. Vous êtes au 32-16, bien sûr. Vous intervenez en direct avec Fatima Hidbounois, Bruno Poncet et avec Antoine Diers. On va parler politique et Antoine Glucksmann.
Parfait. Eh bien, il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Hein, il y a eu une inversion des rapports de force.
Il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES, là. Il faut un cap clair, on va pas faire la NUPES là.
Bien sûr, c'est Raphaël Glucksmann qui était l'invité hier du journal de TF1 où il a évoqué son calendrier. Il se laisse encore un peu de temps.
Oui, et il explique... Un candidat de plus sur l'espace de la gauche démocratique, vous avez noté qu'il y en a déjà trop. Je me donne 3 mois. 3 mois pour sillonner le pays et proposer ce nouveau contrat patriotique. 3 mois pour réunir ma famille politique. Et à la fin, nous aurons une seule candidature, parce que notre responsabilité est immense. J'ai l'intime conviction que notre espace social-démocrate est le seul qui peut vaincre l'extrême droite en 2027.
3 mois avant de décider sa candidature, en fait, il veut rencontrer les Français pour ce qu'il appelle lui-même le nouveau contrat patriotique.
Bon, on sait, il y a deux gauches. Il y a la gauche radicale incarnée par Jean-Luc Mélenchon et la gauche qu'on peut appeler social-démocrate de gouvernement incarnée, enfin, que veut incarner Raphaël Glucksmann. Et il se donne donc 3 mois pour s'imposer dans ce camp-là. On sait qu'en embuscade, il y a les anciens, François Hollande et Bernard Cazeneuve, qui voudraient aussi incarner ce camp. Donc il va, pendant 3 mois, sillonner le pays, voir si ça prend.
Alors aujourd'hui, pendant les sondages, c'est lui qui est en tête de ce camp-là, puisqu'il est autour de 11%. Les autres sont derrière. Ce qui est intéressant, moi, je ne trouvais pas mauvais hier Glucksmann, parce que il y a un procès qui lui est fait sur le côté hors sol, candidat des bobos, parisien, plus intéressé par ce qui se passe dans le monde que ce qui se passe en France. Il avait fait un bon score aux européennes. Est-ce qu'il est capable aussi de parler de la France, des problèmes des Français? Et hier, il a beaucoup insisté là-dessus. Il a beaucoup insisté sur les gens qui sont déclassés dans les zones rurales. Il dit il n'y a pas de fatalité pour que ces gens-là votent RN. Il n'y a pas de fatalité non plus pour que les gens dans les quartiers, en Seine-Saint-Denis par exemple, votent Mélenchon. Et donc, il veut parler à ces gens-là. On va voir maintenant ce qu'il va faire. Est-ce qu'il aura des bonnes propositions? Ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions ce matin. Les plus virulents contre Glucksmann, c'est les mélenchonistes.
Bah, évidemment.
C'est-à-dire que c'est la haine à gauche. C'est, moi, je suis toujours épaté que des gens qui sont quand même dans la même famille politique et qui, à un moment donné, devront quand même se rassembler s'ils veulent gagner. Parce que s'ils ne se rassemblent pas, ils ne gagneront pas. La gauche désunie n'a jamais gagné dans l'histoire politique française. Ça a toujours marché si elle se réunit au deuxième tour, au moins. Et mais la haine avec tous les lieutenants, là, les sbires de Mélenchon qui, à peu près avec les mêmes éléments de langage, tapent à bras raccourcis sur Glucksmann. Donc, ce n'est pas gagné.
Bruno ?
Moi, ce que je vois, c'est que Glucksmann, il va apprendre ce que c'est que la politique dans pas longtemps. Il y a déjà une note qui est sortie, qui l'a un peu miné en expliquant qu'il s'intéressait au CSP+.
Il avait dit qu'il avait mis la poubelle.
Je pense que dans pas longtemps, on va rappeler à tout le monde ce qu'il a fait en Géorgie. Je pense pas que ça soit très glorieux pour lui, son petit parcours en Géorgie. Donc, à mon avis, Glucksmann, il va penser avec la politique. Et puis surtout, si le titre de son bouquin, c'est Nous avons encore envie, mais qui a envie de Glucksmann en France aujourd'hui? Et puis, il faut savoir qu'en face de lui, il y a l'ancien président de la République, Hollande, qui est un vrai politicien. Et je pense qu'il va lui rappeler qui est le taulier dans pas longtemps. Et Glucksmann, ça va s'évanouir. Comme c'est venu, ça va être du gaz hilarant dans pas longtemps. Ça fera rigoler tout le monde.
Je suis pas si sûr.
Moi, j'en suis convaincu.
Je suis pas si sûr. Personne ne me soupçonnera d'être de gauche. Mais j'adore la politique. J'adore la politique depuis longtemps. Et honnêtement, je vois autour de moi des gens de gauche avoir de l'intérêt pour Glucksmann.
Ouais, c'est pas des vrais gens de gauche.
Pardon, je termine. Parce que tout le monde ne vote
pas radical.
Mélenchon, ça leur fait peur. Ils se reconnaissent pas du tout. Et que finalement, Glucksmann est dans une logique de récupérer tout à la fois les anciens macronistes de gauche. Il y a un peu d'électorat.
Qui avait fait l'élection de Macron en 2017, faut le rappeler.
Exactement. Et le PS raisonnable, bon teint, il y a un électorat. Il y a un chemin.
Et ça peut lui permettre de se qualifier au deuxième tour.
Et honnêtement, Hollande, Cazeneuve, que j'aime beaucoup par ailleurs, toujours bien sapé quand je le croisais à Calais quand il était ministre de l'Intérieur. Mais tout ça, ça fait pas rêver. Et donc finalement, Glucksmann, sur ce créneau, il a peut-être un truc. Et ensuite, et tu l'as sous-entendu, peut-être que je prêche un peu pour ma paroisse, parce que il faut affaiblir Mélenchon. Il faut pas laisser Mélenchon seul à gauche. Et que moi, je suis heureux, mais en plus, au-delà du calcul tactique, j'adorerais qu'on retrouve en France une gauche normale, raisonnable, pas la gauche des tarés pro-palestiniens.
Pourquoi se donner 3 mois? Pourquoi pas se déclarer maintenant?
Parce qu'il va être flingué. Pourquoi
tu vas dire je vais aller à la rencontre des Français?
Déjà,
ça veut dire qu'il sait qu'il a large et grand déficit. Un nouveau contrat patriotique. Alors, tu vois déjà, t'as une espèce d'antinomie quand tu dis Glucksmann et contrat patriotique. Tu sens que ça colle pas, quoi, tu vois.
Déjà,
mais non, mais si vraiment t'as envie, si vraiment t'as la niaque, si vraiment tu veux y aller, si vraiment tu veux aller à l'Élysée, tu passes à TF1, tu dis j'y vais. Je suis candidat, je suis anti-Mélenchon, je suis anti cette gauche-là, je veux y aller, je fonce.
Là,
si tu veux, c'était un peu mou du bout, quoi. Fatima.
Ah, mais je te rejoins sur plein de choses.
Je crois qu'on va en faire un mème de ce.
Alors, écoutez, non, il y a plusieurs choses. En fait, il est dissonant. Je sens une dissonance. Il est dissonant. Autant tu peux être de droite ou de gauche. Ça me gêne pas même d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ce que j'aime, c'est la cohérence, l'authenticité. Voilà, les gens alignés avec ce qu'ils sont. Ça va, vraiment, je peux les écouter, ça m'intéresse. Mon problème, c'est cette note là qui est sortie et qui a fait que confirmer ce que je pensais. Ou dans cette petite note, on fait l'étude de marché. Tiens, on va s'intéresser à qui?
Les musulmans à mort.
Là, on voyait bien que les pauvres l'intéressent pas. On voit bien.
Là, vous êtes mauvaise foi.
En tout cas, pour moi, il y a l'étiquette de gauche, mais derrière, qu'est-ce qu'il a de gauche, et j'ai l'impression d'avoir un monde parallèle. Il me fait beaucoup penser à Macron au début. Vous voyez ce côté où le phénomène, les dîners, organiser des dîners où on s'invite. Donc un peu le candidat parisien, le candidat que les journalistes aiment, et puis on va parler de lui, et puis il est invité. Mais qu'est-ce qu'il représente? Moi vraiment, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. Jamais personne autour de moi ne prononce son nom. Exactement. Je l'entends pas. Je fréquente des gens différents. Mais jamais autour de moi.
Me dit, oui, mais ah Yannick Jadot aussi. Ouais. Tu te rappelles qui t'es?
Qu'est-ce que j'ai envie de voter?
Bon, non, en fait, à un moment donné,
personne.
Je pense qu'il faut. Et puis en plus, là, il dit j'écris un livre. Et après, je vois les Français. Ben, t'es mignon. Hollande, c'est déjà le deuxième ou troisième qu'il fait. Et à chaque fois qu'Hollande va dans une foire au livre, je peux te dire, ils sont tous là en train de le réclamer à corps
et dans les sondages, il est à 8%.
Oui, mais tes sondages, moi, je te rappelle les sondages avec Balladur et Chirac.
Les mecs qui signent les livres, parce que c'est un ancien président. C'est comme Sarkozy qui était persuadé, parce qu'il signait plein de livres, qu'il pouvait revenir. Il a tenté, il a perdu à la primaire des premiers tour. Oh là là, moi je me méfie des gens qui signent des livres parce que
on
va voir un ancien président, on va faire un selfie, c'est pas pour ça qu'on vote pour lui.
Moi j'ai bien connu un mec qui vendait beaucoup de livres aussi. Et ça
sorti de votre milieu, Glucksmann, tu sais qu'on parle de Glucksmann, sorti de votre milieu, milieu un peu médiatique, un peu culturel, parce qu'évidemment on l'identifie à son couple, mais Glucksmann politiquement c'est quoi?
Ah non, mais moi je pense qu'il a un grand déficit.
C'est quoi Glucksmann politiquement?
Mais c'est pas Glucksmann le déficit, c'est la gauche,
c'est la social-démocratie.
C'est la social-démocratie.
Elle est au pouvoir, la social-démocratie. Elle est au pouvoir.
C'est
le pouvoir. Macron était formé par Strauss-Kahn et par des gens comme ça. Donc elle est au pouvoir.
Pardon, la gauche quand elle était au pouvoir, ça n'a été que la social-démocratie.
Bien sûr, on est d'accord.
C'est marrant, mais il n'y a pas eu d'autre gauche. C'est la social-démocratie.
La famille politique médiatique, et vous, c'est un membre de la famille que tout le monde connaît, et nous, dans la famille, des gens qui sont nous on est là de temps en temps, voilà, moi je viens, j'ai ma vie à côté. Je peux vous assurer que sur notre petite île France, parce que la France c'est plein de petites îles, moi sur ma petite île je n'entends pas parler de lui. Il incarne rien. La seule fois où vraiment je me suis intéressée à lui, c'était à cause de ces notes là qui avaient fuité, où je me suis dit,
mais une fois que t'as dit ça veut pas dire qu'il y a pas de chance.
Études de marché, il nous vend des shampoings, moi j'ai pas envie qu'on nous vende des shampoings.
Il faut pareil, Jean-Luc Mélenchon, il fait exactement la même chose. Mais je dis les mecs de banlieue,
mais je vous défends pas, c'est pas Jean-Luc Mélenchon aussi.
Chacun ses parts de marché, ça marche comme ça.
Mais là, les enjeux
surtout
sont...
au premier tour, faut que tu rassembles les gens qui sont comme toi. Moi, je suis d'accord avec toi.
Excusez-moi de croire encore en la politique. Moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui a vraiment. Et ça existe. Mais ouais.
C'est 3-1 là sur la ligne de départ.
Ça existe. Vous savez, c'est comme le bien et le mal. Moi, le mal absolu existe. Le bien absolu existe aussi.
S'il va tous les jours.
Le patriotisme existe.
Alors après, peut-être qu'il est pas assez bon pour tout ce qui est régalien, mais enfin Ruffin, lui il ferait mieux à mon avis. Alors lui, l'inverse de Ruffin, c'est-à-dire que lui, avec ses petites chaussures vernies, il va aller voir les Français, ils vont se foutre de sa gueule. Et puis Ruffin, lui, quand il va voir les patrons de ça, les mecs le regardent de haut. Ok, voilà. Bah, en fait, t'as deux France opposées, et la France de Ruffin est beaucoup plus nombreuse que
il pourrait faire un ticket. Moi, je pense qu'ils sont pas opposés.
Exactement.
D'ailleurs, hier,
il travaille à ça.
D'ailleurs,
en fait,
hier, il a tendu la main à des Ruffins. Puisqu'il veut rassembler tout ce camp-là, hors Mélenchon, hors Insoumis.
Oui,
on a Sébastien qui va intervenir dans la discussion. Gérant de Maison d'Hôtes, l'ami Sébastien Haute-Loire, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien? Est-ce que Raphaël Glucksmann, qui donne 3 mois, est-ce qu'il va pouvoir s'imposer, être candidat ou pas?
En fait, les Français sont devenus naïfs. On est en train d'assister à une parodie politicienne pour le premier tour, et au deuxième tour, que ce soit la droite contre la gauche, vous allez voir, ils vont tous s'allier les uns les autres. On est en train de faire comprendre ça aux Français, et les Français deviennent de plus en plus naïfs. On va voter contre quelque chose au lieu de voter pour quelque chose. Et comment voulez-vous qu'on avance dans ce pays avec des gens comme ça? La gauche est une manipulation totale de toute la politique depuis très très longtemps. Et les gens ne se l'imaginent pas. Mais on va aller droit à la catastrophe en faisant ça. Droit.
Glucksmann, pour vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui peut être candidat seul ou pas?
Mais non, absolument pas. Cette personne-là, il fait ça pour diviser au premier tour, et au deuxième tour, ils s'allieront tous les autres.
Non, là, il a pas tort. C'est-à-dire que c'est Bardella qui est au deuxième tour, que ça soit Glucksmann ou Édouard Philippe face à Bardella. De toute façon, ils seront tous ensemble pour dire, il faut faire barrage à Bardella. Et c'est là où je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que ceux qui rêvent du retour du bon vieux clivage gauche-droite, qui était plus simple. On avait un candidat de gauche, candidat, ben ça n'existe pas parce que on n'est plus dans ce schéma-là. Il y aura.
Je pense pas que ça va se passer comme avec Chirac à l'époque. Hein. Alors là, vraiment pas. C'est pas la même France, c'est pas les mêmes moments.
Oui, mais tu vois, Guzman de second tour.
Non, mais je dis pas que ça marche.
C'est possible pour dire non au fascisme.
Tu verras, Édouard Philippe a fait à voter Glucksmann en disant non au fascisme. Et inversement.
Aujourd'hui, mais même dans le petit fils, comment tu imagines que Glucksmann soit au second tour? Il sera même pas là. Dans 3 mois, il aura pris une cartouche, il sera plus là.
Tu vois.
Dans 3 mois, Hollande, il arrivera avec son nouveau bouquin. Hollande, aujourd'hui, est en train de préparer son programme avec 10 mesures phares. Ça va être compliqué.
Et
il va, tu verras. Il votera les gens de Hollande.
Bruno a voulu faire la même chose en 2022.
Pour rejoindre ce que disait Fatima en disant, est-ce que franchement, il parle aux Français? Là, il dit 3 mois. Trois mois pour aller à la rencontre des Français avec un nouveau contrat patriotique.
Ouais, des
donc
plages.
Tu, Raphaël Glucksmann, il va aller voir les Français en disant qu'ils sont en colère. On le sent, on le voit, nous, au 32-16. On l'entend toujours. Bonjour, je suis Raphaël Glucksmann. Voilà mon nouveau contrat patriotique. Je veux une convention citoyenne sur l'immigration. Je veux créer un passeport pour l'émancipation qui va garantir à chaque enfant de partir en séjour collectif à la place des colonies de vacances. Voilà. C'est tu vas dire ça aux Français? Parce que c'est ce qu'il a dit hier au soir à TF1. Le gars, il y a les coups de garçon, tu vois. Voilà. Dans ton bus et
la convention citoyenne
sur l'immigration.
La convention citoyenne sur l'immigration, elle s'appelle Rassemblement National. Les Français votent à 42% pour le RN. Allez, dans un instant, suite des GG avec Jean-François Copé. À tout de suite.
Ah oui.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.